Las conferencias de Radio Languedoc. Pero hoy, una conferencia de Christophe Granier, président de la Fédération française de jeux de balle au tambourin, et Jean-Guillaume Rouquette, escrivain occitan montpelliérain, afougat des tambourines, qui est fan d'une retraite de la sport tambourie et qui présente toute sa dynamique actuelle dans le monde, notamment dans les régions historiques en France et en Italie. À quelle conférence organisée par le Cercle Occitan de Montpellier, c'est des bannettes à la Gazette Café à Montpellier, le 24 d'avril des 12 000 ans. À qui navette la seconde partie.
Donc ça va être peut-être à vous de poser des questions. Vous pouvez chercher éventuellement des éléments qu'on n'aurait pas assez approfondis ou des questions particulières sur certaines pratiques ou certaines choses que vous avez pu voir éventuellement au bord des terrains ou ailleurs, ou des histoires qu'on vous a racontées sur le tambourin. C'est le moment de vérifier si elles sont vraies ou si vous avez cru comprendre quelque chose. Alors, dans l'Hérault, il y en a 34, avec une évolution entre 35 et 33, ça dépend un petit peu des saisons, avec une majorité de clubs qui jouent dans la version traditionnelle extérieure, et une petite minorité, mais croissante, de clubs qui jouent uniquement en salle. Voilà. Donc c'est la version hivernale, la version en salle, a permis à la création de certains clubs. Je pense en particulier à Pollan, où il n'y a pas de terrain de tambourin à Pollan. Donc Pollan, on devrait dire d'ailleurs, Pollan a créé un club de tambourin uniquement pour jouer à la pratique en salle, qui est la version moderne, je dirais, du tambourin. Pas moderne pour être moderne, la version qui permet de jouer durant la saison hivernale. Ça, c'est pour le département de l'Hérault. Ensuite, en France, il y a une dizaine d'autres clubs qui sont répartis dans l'Aude. Vous avez Narbonne qui joue au tambourin. Dans le Gard, vous avez Aiguevive. Vous avez Galargues-le-Montueux qui joue au tambourin. Dans les Bouches-du-Rhône, Gignac-la-Nerthe, Les Pennes-Mirabeau, j'en oublie un. Il y a Marseille, il y a un club à Marseille, la SPTT Marseille. Et ensuite, de façon assez étonnante, vous avez un club du côté de la Corrèze, à Monceau-sur-Dordogne. Et toute une série de clubs en Picardie, enfin ce qui était la Picardie, qui est devenue les Hauts-de-France maintenant. Donc dans les Hauts-de-France, vous avez Beauvais, La Chapelle-aux-Pots, qui est un village autour dans l'Oise. Vous avez quatre clubs dans l'Oise et vous en avez trois de plus dans le département du Nord, donc avec un N majuscule, du côté de Beuvrage, qui est aux alentours de Valenciennes. Et donc dans cette partie-là, pourquoi ça s'est développé ? Alors ce sont des gens qui ont découvert le tambourin dans l'Hérault et qui l'ont exporté, ou plutôt importé dans le département du Nord. Mais il faut savoir que ces départements-là, les Hauts-de-France, la Picardie, ont des traditions fortes de jeux de pommes, jeux de balle au poing, jeux de balle à la main, toute une série de sports et de jeux qui se sont développés dans la mouvance donc des jeux de pommes. Donc ce qui donne un profil assez atypique du tambourin dans l'Hérault et en France. Comme je le disais, une trentaine de clubs, un peu plus dans l'Hérault, et une dizaine de clubs répartis dans quelques départements en France. Et pour aller un peu plus loin, l'Italie, qui est l'autre pays du tambourin, l'Italie, par contre, a une pratique qui s'étend sur deux régions, dans le Trentino, donc le nord de l'Italie, avec beaucoup plus de clubs, mais c'est resté aussi une pratique de village. Voilà. Vous n'avez pas de ville importante qui pratique le tambourin, même si vous avez, dans le nord de l'Italie, vous avez des villes de taille importante. Il faut aller dans des villes, des petits villages alentour de ces villes pour retrouver du tambourin. Alors, le club titré, à la longue, pour l'instant, c'était Gignac. Mais Gignac, depuis quelques années, depuis presque une décennie, a eu beaucoup plus de difficultés. Il a certainement été rattrapé, alors je ne connais pas le chiffre exact, il a été rattrapé par Cazuldero, qui est un village du côté de, pas très loin de Pézenas, et aussi Vendémian, qui est actuellement, on va dire, la Mecque du tambourin. Si vous avez l'occasion d'aller voir des matchs à Vendémian, je vous le conseille, parce que le public est là. L'ambiance est là, des fois il y a un petit peu trop d'ambiance. Pour être arbitre officiel aussi, pour arbitrer des matchs là-bas, il faut savoir prendre les décisions et s'y tenir, parce que c'est pas le genre de lieu où il faut être hésitant quand on est arbitre. Voilà. En tout cas, Vendémian est un des villages qui a le plus de titres récemment. Et ensuite, il faut faire attention à ça aussi, vous avez des clubs qui se sont construits plutôt en palmarès au niveau des féminines. Voilà. Alors là, je pense à Poussan, par exemple. Le village de Poussan a un palmarès quasiment uniquement féminin. Poussan a été champion de France une fois chez les messieurs. Et par contre, depuis plusieurs décennies, désormais, Poussan est champion de France assez régulièrement, avec Notre-Dame de Londres aussi. Notre-Dame de Londres a des bons résultats, en particulier en Coupe de France. Mais par contre, Notre-Dame de Londres a surtout des résultats, alors en championnat de France et en championnat d'Europe, avec les féminines. Notre-Dame est championne d'Europe en titre, donc Notre-Dame de Londres, chez les dames. Notre-Dame est donc c'est le troisième titre qu'elles ont décroché en une décennie. Donc c'est un beau palmarès. Et pour terminer sur cet aspect de palmarès, la salle a aussi amené toute une série de nouveaux champions, avec entre autres Florent Sac qui a pendant longtemps été le champion français du tambourin en salle, qui a été désormais rattrapé par Cournon-Terral qui est la grosse équipe de la salle. Et donc ça fait toute une série de palmarès. Donc c'est un petit peu comme, je dirais, on est sur RMC Info, ça dépend d'où on regarde et on peut voir des champions à peu près partout. Mais en tout cas, les titres de champion restent clairement héroletés dans le milieu du tambourin. Alors la première question, c'est pourquoi le tambourin s'est développé plutôt à l'est du département, et c'est vrai que la partie ouest du département, donc l'arrière-pays, etc., n'a quasiment pas de club. Alors le tambourin va à peu près jusqu'à Florensac, Pézenas, donc Pézenas qui accueille encore du tambourin mais qui n'a plus de club, Castelnau de Gers, etc. Donc il y a deux aspects à celui-ci, c'est qu'apparemment, historiquement, c'était un développement qui s'est fait le long de la vallée de l'Hérault. Donc on suit un petit peu ce cheminement-là. Et l'autre cheminement, c'est plus un côté sportif, pas historique. Si on met en parallèle le développement du handball et du basketball, dans l'Hérault, on retrouve à peu près la même césure. Alors jusqu'à Béziers, il y a des clubs. Et ensuite, tout ce qui est l'arrière-pays, la partie ouest du département, y compris pour le handball et le basketball, ne sont pas des zones où il y a des clubs. Voilà. L'une des raisons étant que les gens qui pratiquent ces disciplines, et qui sont plus connus, plus célèbres et plus développés au niveau national et international, vont souvent pratiquer de l'autre côté de la frontière, entre guillemets. Ils vont pratiquer dans des clubs qui sont du côté de l'Aude ou du département limitrophe. Et donc, cette césure, elle n'est pas uniquement typique du tambourin. Elle fait partie quand même de l'avènement du sport en général dans l'Hérault. Mais c'est vrai que la césure, c'est tout le temps faite entre Pézenas-Béziers, c'est un peu la limite du sport tambourin dans le département de l'Hérault. Et Philippe a quelque chose à rajouter ?
Oui, dans chaque région, dans chaque département, à l'intérieur de chaque aire culturelle, il y a des sous-aires. Et c'est-à-dire des aires culturelles qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et on en trouve en général deux par département. Par exemple, le nord de l'Aveyron, ce n'est pas tout à fait la même situation que le sud de l'Aveyron. L'Ardèche aussi, l'Ardèche à l'huile et l'Ardèche au beurre. Et dans l'Hérault, il y a effectivement une césure est-ouest qu'on retrouve dans l'ancien dialecte occitan, qui, bien sûr, les deux dialectes se comprenaient parfaitement, j'en ai connu, mais il y avait des légères différences qui distinguaient l'ouest et l'est. Il y a aussi une différence au niveau instrumentarium traditionnel. C'est-à-dire l'ère du hautbois languedocien, c'est plutôt l'est. Et l'ère du fifre, du violon, plutôt l'ouest. Donc on retrouve bizarrement ce genre de coupure culturelle qu'on voit à travers le sport, les instruments traditionnels et les dialectes, c'est-à-dire les manières de parler, d'une manière assez mystérieuse, mais dont les origines sont peut-être très lointaines aux mentalités anciennes des gens qui ont peuplé ces régions. Et on retrouve ces césures un petit peu presque dans chaque département.
Par rapport à ça, est-ce que le département, l'instance politique, a une politique pour essayer de développer la pratique de ce sport sur l'ensemble des départements ?
Alors, oui, mais depuis peu. Alors, les sports traditionnels ont fait partie un petit peu de cette culture qui existait, qui était présente. Et à ce sujet, d'ailleurs, peut-être je passerai le micro à M. Vivancas ou à M. Rouquette pour faire le point sur l'aspect, je dirais, culturel. Mais c'est vrai que Alors, c'est pas unique à l'Hérault, c'est unique, je dirais, plutôt à l'Occitanie, au Languedoc-Roussillon, enfin, à cette région-là. Pour en avoir discuté avec des gens qui sont dans le tourisme, dans le monde touristique, etc., c'est quelque chose qui est en train de revenir. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que il faut pouvoir proposer des choses différentes aux gens. Quand on va, et c'est souvent cette remarque que l'on me fait, quand on va en Bretagne, les Bretons ne vont pas vous vendre le soleil et la plage. Voilà. Par contre, les Bretons, ils ont toute une culture, une tradition, etc., et c'est ce qu'ils mettent en avant. Et pendant longtemps... Voilà. Oui, toute une série de pratiques, et puis la pêche, etc., et c'est la culture qu'ils vendent. Et c'est vrai que dans l'Hérault et dans l'Occitanie en général, pendant longtemps, l'attrait du soleil a simplement fait qu'il suffisait d'avoir... Voilà, on avait le soleil et les touristes venaient. Quitte à écraser un petit peu cette culture locale, etc., et comme le disait Philippe aussi, voilà, en faire quelque chose d'un petit peu folklorique, à la limite, mais pas très intéressant en soi. Les gens y reviennent, alors d'un point de vue du tourisme et d'un point de vue aussi de la promotion du territoire. Alors, qu'il y ait une politique du département pour développer le tambourin dans l'ouest héraultais, il n'y a pas vraiment de politique en ce sens-là. La politique est en train de se mettre en place au niveau du tourisme et du conseil départemental, entre autres, dans le cadre du schéma touristique, c'est de mettre en avant les particularités du territoire pour réussir, bien entendu, à faire, et c'est marqué dans les termes utilisés par le conseil départemental, des héraultais, des ambassadeurs du territoire. C'est-à-dire des gens qui vont pouvoir faire la promotion du territoire quand ils vont se déplacer dans d'autres régions de France, ailleurs, etc. Un petit peu, et on rejoint un petit peu la pratique des Pays Basques, voilà, au Pays Basque, les gens souvent utilisent des prénoms basques pour nommer leurs enfants, et la pratique de la pelote basque ne s'est jamais arrêtée. Et c'est un marqueur culturel important au Pays Basque. Et bizarrement, les sports traditionnels comme la joute languedocienne, les joutes languedociennes, la course camarguaise et le jeu de balle au tambourin ont continué à exister, mais n'ont jamais été vraiment prises en compte comme un outil de promotion du territoire. Alors, j'espère que ça va changer. En tout cas, c'est en train de changer. On entend des discours différents de différentes instances, collectivités, etc. De là à ce qui est une politique, alors c'est celle du comité départemental de tambourin, hein, de développement du tambourin sur l'ensemble du territoire de l'Hérault, mais une politique qui serait du conseil départemental pour aller amener cette pratique-là à l'ouest du département, il n'y en a pas vraiment. La volonté, clairement, du comité départemental et de la Fédération française, etc., c'est d'avoir un volume important de pratiquants. Donc, par définition, il faut aller chercher les pratiquants là où ils sont et avoir une partie du territoire de l'Hérault qui n'est pas encore irriguée, je dirais, en club de tambourin, c'est clairement un objectif à compléter. Tout à fait. Alors, dans le milieu scolaire, il y a des interventions. Alors, dans le cas des calendrettes, bien entendu, le jeu de balle au tambourin est pratiqué, alors souvent par les professeurs des écoles qui le font pratiquer à leurs enfants, aux enfants des calendrettes, du fait que ce soit un sport traditionnel. Et ensuite, il y a des interventions, alors financées par le département de l'Hérault, par certaines intercommunalités. Là, je parle de la vallée de l'Hérault, donc c'est Gignac-Vendémian, cette zone-là, le Grand Pic Saint-Loup. Donc, le Grand Pic Saint-Loup, c'est Saint-Gély jusqu'à Saint-Jean-de-Buège, Saint-Jean-de-Cucul et Saint-Mathieu-de-Tréviers, cette zone-là. Vous avez aussi Hérault Méditerranée, donc c'est l'agglo d'Agde. L'agglo, vous avez de nouveau les clubs dont j'ai cité certains noms, hein, Florensac, etc., qui, eux, financent l'intervention d'éducateurs donc dans les écoles élémentaires pendant le temps scolaire. Voilà, avec une convention passée avec l'Académie de Montpellier, avec l'éducation nationale. Donc il y a clairement cette volonté-là. Après, derrière, ce ne sont que 3 collectivités sur un ensemble de, je crois qu'il y a 18 intercommunalités qui financent, qui pourraient financer, mais c'est vrai qu'il n'y en a que 3 qui financent, mais à des hauteurs assez intéressantes. Voilà. Et les calendrettes, c'est un petit peu aussi l'avenir du tambourin. Je me tourne vers Jean-François, qui représente ici le club de Montpellier. Donc il y a un club à Montpellier qui évolue au Parc Montcalm et qui va avoir un terrain tout neuf. Alors, ils ont déjà un terrain au Parc Montcalm. Ils vont avoir un terrain tout neuf à l'aube 2020, ou plutôt à l'aube 2021, on va dire. Voilà. Et donc, le club de Montpellier, en particulier, bénéficie beaucoup du travail qui est effectué dans les calendrettes, parce que beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs qui évoluent au club de Montpellier, viennent des calendrettes où ils ont appris à jouer au tambourin. Est-ce que vous avez des éléments?
Je fais un suivi dans les lycées et collèges.
Alors, les suivis au niveau collège et lycée, c'est plus compliqué. Au niveau collège et au niveau lycée, ça se fait au travers des professeurs d'éducation physique. Et donc, eux ont souvent, alors, encore rarement, mais certains professeurs d'éducation physique apportent cette pratique-là parce qu'ils l'ont connue aussi au travers de leur formation. Donc il faut qu'ils aient été formés dans le cadre du CREPS, par exemple, de Montpellier. Et là, ils ont eu une pratique de tambourin et ils l'importent aussi dans leurs cours. Mais clairement, pénétrer les collèges et pénétrer les lycées est totalement différent que de pénétrer les écoles élémentaires. Bruno Cessillon de la Radio Languedoc.
Oui, simplement apporter un témoignage par rapport à des rencontres auxquelles j'ai assisté. J'étais effaré de voir la joie, le plaisir et la passion qu'ont les jeunes, les petits, les minimes et les benjamins. Hein. C'est assez intéressant, ils se prennent au jeu et c'est assez effarant de voir le plaisir qu'ils ont à faire la partie. Et puis aussi les féminines. C'est vrai qu'il y a, j'étais l'autre jour à Pouillan, hein, et il y avait l'équipe de Metz qui était contre Fabregas, non, je ne me souviens plus. Pardon ? Courlandéral, qui. Et ça fait plaisir de voir cette féminité et cette passion qui justement emporte le public. Alors, ça pose aussi la question du public. Le public est convié donc dans des grandes manifestations, et c'est un moment où justement où on peut voir de grandes équipes. C'est les rencontres internationales, et donc ça serait intéressant de développer cet aspect-là. Et en même temps, que recoupe la Coupe d'Europe ou le Championnat d'Europe ?
Alors oui, les rencontres internationales, c'est un petit peu aussi ce qui fait la spécificité du sport tambourin comparativement aux joutes languedociennes ou bien entendu à la course camarguaise. Le fait qu'il y ait une fédération en Italie et que Max Rouquette ait fait un gros travail d'une part de découverte du tambourin italien et d'harmonisation aussi, parce que comme l'a souligné Jean-Guillaume, les deux sports utilisaient des outils similaires mais les règles étaient totalement différentes. Et donc il a fallu faire un vrai travail d'harmonisation, et ça n'a pas été facile, parce que Max Rouquette a rencontré beaucoup de réticences. Voilà. Et les premières rencontres France-Italie se sont pratiquées moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il y avait une moitié de la partie qui se jouait à règle française, et l'autre moitié qui se jouait à règle italienne. Et ensuite on a demandé l'avis aux joueurs. Voilà. Et apparemment beaucoup de joueurs se sont penchés vers la version que l'on voit est une version plus italienne, plus sportive que jeu, comme on a pu l'évoquer précédemment. Ceci a entraîné, bien entendu, des rencontres France-Italie dès les années 50. Et au fur et à mesure du temps, certaines autres nations ont intégré cette activité. La problématique de l'extérieur est qu'elle demande une pratique dès le plus jeune âge. Et la conséquence, c'est que certaines nations n'ont pas pu rentrer dans le tambourin au travers de la version extérieure qui demande vraiment un certain niveau de jeu. Y compris, même entre les Français et les Italiens, il y a un écart particulier. Parce que la technicité du jeu en extérieur exige un vrai niveau de jeu, une vraie connaissance, un vrai entraînement depuis le plus jeune âge. A l'inverse, ce qui fait le succès de la version en salle aussi, c'est qu'elle est plus accessible. Donc la version en salle a permis à toute une série de nations d'intégrer le sport tambourin au travers de cette version plus accessible. Et au fil du temps, ces nations sont en train d'intégrer aussi la version en extérieur. Et donc quand on parle de Coupe d'Europe en extérieur, pour l'instant, il y a clairement la Coupe d'Europe en extérieur, ce sont les deux meilleurs clubs français contre les deux meilleurs clubs italiens, chez les garçons et chez les filles, donc sous forme de demi-finale et une finale. Il y a une deuxième Coupe d'Europe qui, elle, se joue entre les nations de deuxième niveau, on va dire. Donc c'est le cas de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Angleterre, du Brésil aussi. Alors, Brésil, bien entendu, pas en Coupe d'Europe, mais le Brésil joue au tambourin, on y reviendra. Et donc, ces nations se rencontrent avec des équipes de 3e ou 4e série française et italienne. L'objectif étant pas de gagner la Coupe d'Europe de B, on va dire. L'objectif étant de permettre à ces équipes de jouer régulièrement à un certain niveau. Donc, la version extérieure a encore cette dualité France-Italie. La version en salle, elle, par contre, étant plus accessible, plus de nations le pratiquent. Et lorsqu'on a la Coupe d'Europe des clubs ou le championnat du monde, on a 13 à 14 nations représentées. voilà, avec en particulier des nations comme la, donc je les ai pas citées précédemment, mais la Hongrie, le San Marin, alors qui est une nation italienne, on va dire, mais aussi bien entendu l'Espagne, la Catalogne qui a sa propre fédération de tambourins, donc qui joue sous les couleurs catalanes, et comme je l'avais cité aussi bien entendu le Brésil. Le Brésil qui a découvert le tambourin dans les années 60 avec des Italiens qui ont importé au Brésil les fameux tambourins. Et le Brésil qui s'est mis à jouer avec une version locale, des règles adaptées à leur spécificité, des terrains plus petits, etc. Mais qui ont acquis une technicité qui fait que quand ils arrivent en Europe, ils sont capables, non pas de gagner, ils sont capables de rivaliser avec les équipes italiennes et françaises. Ce qui nous fait des superbes demi-finales. Et en salle, on va dire que la France est devant en salle. Les Italiens sont devant en extérieur. Et ensuite, en deuxième position, c'est Italie-France. Donc en extérieur, c'est plutôt la France qui est en deuxième position. Les Italiens sont deuxièmes depuis quelques années en salle. Et par contre, la troisième nation, c'est le Brésil. Mais avec derrière des nations qui poussent. Vous avez entre autres... Alors chez les garçons, c'est plutôt la Catalogne et l'Allemagne qui poussent en salle. Et chez les filles, donc en salle, c'est plus l'Angleterre. L'Angleterre qui a une génération de féminines très relevées et qui ont fini d'ailleurs dernièrement troisième du dernier championnat d'Europe des nations. Donc il y a des rencontres internationales de nations et bien entendu des coupes d'Europe des clubs. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question sur cette notion internationale ? Après, ne nous leurrons pas non plus. Le tambourin ne doit pas se leurrer en se disant c'est bon, c'est un sport international, l'affaire est faite. Clairement, il y a encore un travail à effectuer pour que ça devienne vraiment un sport qui soit pratiqué de façon beaucoup plus homogène dans les pays qui le pratiquent. Quand on dit le Brésil joue au tambourin, c'est une ville, c'est Santos, à côté de Sao Paulo, qui joue au tambourin. Donc bien entendu, c'est pas tout le Brésil qui joue au tambourin. Voilà. Quand on dit le Brésil joue au football, oui, tout le monde joue au football au Brésil, mais tout le monde ne joue pas au tambourin. Il y avait une question qu'on a... Oui. Alors, la partie en salle, comme toutes les versions que l'on a vues, hein, la partie en salle, vu qu'elle utilise une balle basse pression de tennis et que le terrain est plus réduit et que ça se joue à 3 contre 3, l'accessibilité à cette pratique-là est plus simple. Les rebonds de la balle sont moins agressifs, etc. Disons que pour pouvoir s'amuser en tambourin, il faut compter, on va dire, une heure d'initiation ou 2 heures d'initiation. Voilà. Et on commence à s'amuser. Après, clairement, pour commencer à vraiment améliorer sa technique dans les niveaux, il faut compter 1 à 2 ans de pratique avant de pouvoir rivaliser avec certaines équipes, je dirais, de séries inférieures. Donc, mais ça, c'est légitime. Voilà, on peut très bien s'amuser avec un ami au tennis, et quand on veut rentrer dans la compétition, il faut déjà avoir quand même un niveau de pratique assez important, etc. À l'inverse, donc comme je disais, 1 an pour commencer à pouvoir évoluer en compétition, en faisant des tournois, des choses comme ça, etc., en salle. Par contre, en extérieur, pour commencer à vraiment avoir une maîtrise, il faut bien 3 ans de pratique. Voilà. Surtout pour des adultes qui débuteraient assez relativement âgés, je dirais, vers la trentaine, etc. Pour les plus jeunes, souvent on indique qu'il faut démarrer vers 7-8 ans, quand les enfants sont coordonnés. À ce moment-là, pour les plus jeunes, ils acquièrent rapidement la technique, donc c'est pas du tout la même démarche. Alors, on va dire que le tambourin est un bon tremplin pour le tennis. Voilà. On a eu des expériences dans les écoles éventuellement où les gens démarraient donc le tennis et après quand ils passaient au tambourin, ils s'apercevaient que les enfants avaient plus de facilité. Pourquoi ? Vous l'avez vu, un tambourin se tient directement avec la main. Il n'y a pas de manche. Donc l'accessibilité à une pratique sans manche est plus facile parce qu'en gros, c'est comme si on jouait avec la main ouverte. Voilà. Donc la façon de jouer, il est plus facile d'acquérir la façon de jouer avec un tambourin qu'avec une raquette. Les pratiques avec la raquette rendent le geste plus compliqué avec des mouvements d'articulation, etc. Tandis que le mouvement du tambourin, lui, se fait main ouverte et bras tendus. Donc pour les enfants, c'est plus accessible, le tambourin est plus accessible. C'est ce qu'on nous a fait remonter, et c'est pas parce qu'on a tout pris faire la promotion du tambourin, etc. Mais c'est ce que nous ont fait remonter les professeurs des écoles et les professeurs de sport qui ont fait pratiquer les deux pratiques, les deux disciplines, je dirais, à leurs élèves.
Las conferencias de Radio Languedoc.
Alors la question qui m'est posée, c'est la fourchette d'âge des joueurs. Donc de quel âge à quel âge ? On va dire de 7 à 77 ans, bien entendu. La pratique en compétition, je dirais, démarre vers 7-8 ans. Donc, comme je disais, il faut être coordonné. Donc, c'est CE1, CE2, c'est dans ces eaux-là qu'il faut démarrer. Certains clubs, et c'est une très bonne idée, font démarrer plus tôt, avec des catégories qu'ils appellent mini-poussin ou mini-pousse, etc. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'idée n'est pas avant tout de faire jouer au tambourin, c'est avant tout de créer un groupe avec une cohésion. Parce que souvent, les enfants, ce qu'ils voient, eux, c'est pas si le sport leur plaît. Leur sport leur plaît si leurs copains jouent avec eux. Et donc, il y a cette notion-là. Donc, on va dire à 7-8 ans pour vraiment intégrer une équipe, intégrer la compétition, etc. Et ensuite, bien entendu, il n'y a pas d'âge limite. Alors, tout est relatif, bien entendu, ça dépend à quel niveau on joue. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont joué jusqu'à un certain niveau assez élevé. Et l'âge aidant, sont redescendus dans différentes catégories. Et on le voit très bien chez les messieurs, par exemple, où il y a 6 niveaux. Donc vous avez National 1, National 2, Ligue Occitanie, Héros 1, Héros 2, Héros 3. Et souvent, dans les catégories Héros 1 ou Héros 2, on retrouve des équipes très hétérogènes, avec des joueurs qui sont adolescents, jeunes adolescents, qui ont 14-15 ans, et des joueurs qui ont déjà fait, entre guillemets, leur carrière. Et ça fait des équipes assez étonnantes, parce que vous avez à la fois l'expérience, avec des joueurs qui ont 50 ans et plus, et puis des tout jeunes joueurs, enfin tout jeunes, tout est relatif, mais des joueurs qui ont une quinzaine d'années. Et donc on retrouve ces deux catégories qui se croisent un petit peu à ce niveau-là. Il n'y a pas de catégorie vétéran, il y a une catégorie vétéran en termes de licence, mais il n'y a pas de championnat vétéran dans le tambourin, ni en salle, ni à l'extérieur, simplement parce que justement les gens se resituent dans leur, pas par rapport à leur catégorie d'âge, mais par rapport à leur niveau technique et à leur capacité physique au fil des années.
Comment vous expliquez que c'est un sport de village essentiellement ?
Alors, l'origine, et c'est vrai que peut-être que Jean-Guillaume pourrait dire quelques mots sur l'origine du sport, qui, je crois, et je parle sous son contrôle, est issue des gens qui savaient, enfin qui étaient avant tout viticulteurs. Donc c'est pour ça que la saison, comme beaucoup de sports traditionnels, démarre justement au printemps et se termine à la fin de l'été, au début de l'automne. C'était un petit peu le moment où les travaux, en particulier dans les vignes, sont terminés, le printemps, et on attend jusqu'à la septembre pour pouvoir procéder, bien entendu, aux vendanges, etc. Donc il y a eu cette pratique villageoise, en tout cas, au travers du fait que ce soit surtout des viticulteurs qui le pratiquaient. D'ailleurs, et ça on ne l'a pas évoqué, mais le tambourin est d'ailleurs issu de la possibilité de savoir cintrer du bois, donc de pouvoir faire des tonneaux. Donc quand on sait faire des tonneaux, on sait cintrer du bois. En cintrant du bois, on peut faire un cercle et on peut tendre de la peau dessus. Je pense que Jean-Guillaume peut rajouter quelques... C'est ça, il confirme que c'est ça. Donc j'ai bien révisé mes leçons.
Oui, on parlait de l'importance du tambourin comme élément d'échange culturel. Et il y a eu, à l'automne, une calandrette, la calandrette de Le Pic, là, de Civalet, qui a accueilli une école d'Italie. Et c'est effarant parce qu'ils se sont aperçus que les rapports entre les enfants et les parents n'étaient pas les mêmes par rapport à l'école. Et donc, il y a eu, au-delà du sport tambourin, il y a eu aussi l'échange culturel d'éducation. Et je trouve que c'est assez intéressant justement par rapport à ça, d'apporter finalement des points de vue différents. Et l'échange culturel est un élément majeur parce que finalement c'est vrai que ce qui est important, c'est pas simplement de gagner, mais c'est aussi de donner un autre aspect de notre vision des choses, du monde et des gens entre eux. Voilà.
Oui, tout à fait. Voilà, il ne faut pas non plus se limiter à l'aspect sportif, clairement. Alors ça, c'est TF1. On a fait TF1 à plusieurs reprises, et entre autres, on a eu l'occasion de le faire. Voilà, quand on pose la question, combien de temps il faut pouvoir pratiquer, et en tout cas, s'amuser, là, on a un bel exemple. C'était des gens qui étaient dans une émission de télévisée qui s'appelle Bienvenue chez nous, que vous connaissez ou ne connaissez pas sur TF1. Et donc, un des concurrents était à Saint-Pont-de-Mauchien, qui est un des villages de l'Hérault. Et dans ce village, bien entendu, lorsqu'ils ont accueilli les autres concurrents, donc chacun s'invite, se donne des notes, etc. Vous connaissez le principe. Ils ont fait une confrontation avec du tambourin. Et donc là, ça a duré quelques heures, bien entendu, pour l'émission, ça a été raccourci. Mais le principe, ça a été qu'il y a eu une demi-heure d'initiation Et après cette demi-heure d'initiation, avec comment on tient le tambourin, comment on tape la balle, etc., ils ont fait un petit match. Alors, qui n'a pas duré longtemps, bien sûr, parce qu'ils ont, compté les, avec des points directs, etc. Mais il n'empêche que les gens, et on le voit d'ailleurs dans la vidéo, se sont rapidement pris au jeu, ont rapidement pris le coup et se sont amusés sur un terrain, bien entendu, adapté à leur niveau de jeu. Donc voilà, c'est important de se dire, si j'ai l'occasion de pouvoir jouer au tambourin ou essayer le tambourin, bien sûr, on ne va pas me mettre sur un terrain avec des gens qui jouent depuis 20 ou 30 ans et qui vont m'envoyer des balles, qui vont me siffler aux oreilles. Donc clairement, on a cette possibilité de s'amuser avec le tambourin. Et d'ailleurs, je le conseille, donc au Cercle Occitan éventuellement, on peut vous accueillir sur une découverte, les autres aussi, hein, ne vous sentez pas ostracisé, mais on peut vous accueillir sur des séances de découverte en vous disant, voilà, venez essayer. Et bien entendu, adapté à un public, alors vous l'avez vu tout à l'heure, un public de jeunes adultes, là c'est un public un peu de jeunes, un peu plus âgés, on va dire, mais en tout cas, tout le monde a eu l'occasion de s'amuser. Alors, ceux qui ont gagné se sont plus amusés que ceux qui ont perdu, mais grosso modo, tout le monde s'est amusé quand même. Philippe, tu as un petit quelque chose à rajouter ? Une question pour Philippe.
Non, une question. J'ai entendu qu'il était question, à un moment donné, de raccourcir le terrain. Sur les règles italiennes. Bon, moi, je trouve que ça perdrait. Alors, ça m'inquiète un peu. Est-ce que ça prend le chemin ?
Alors, le terrain fait pour l'instant 80 mètres de long par 18 de large. Ça n'a pas tout le temps été sa dimension. Hein. À une époque, il faisait 100 mètres de long par 20 de large. Et donc, à cette époque-là, les règles étaient différentes. Entre autres, quand on mettait la balle au-delà de la ligne de fond, on marquait un point. Donc ça, c'était l'ancienne règle. Les règles adoptées depuis plusieurs décennies maintenant, au moins depuis les années 50, fait que le terrain a été réduit à 80 mètres et que, bien entendu, si la balle sort des limites du terrain, elle est comptée faute, un petit peu comme on l'en voit dans tous les sports du type tennis, etc. Et il y a eu des évolutions au fil du temps. Les règles françaises et italiennes, on a dit qu'elles ont été harmonisées, elles ne sont pas tout à fait exactement harmonisées. Il y a des pratiques, donc il y a une règle internationale. Les Italiens ont des pratiques légèrement différentes qui ont été adaptées au fur et à mesure, etc. Entre autres, le double service. Pendant longtemps, il y avait un seul service au tambourin. Les Italiens ont introduit le double service. Et comme ce n'est pas une mauvaise idée, parce que ça a la capacité, on le voit au tennis, d'accélérer les rencontres, etc., ça a été adopté au niveau international et donc au niveau français, et ainsi de suite. Par contre, Max Roquette s'est toujours battu, et la fédération continue de le faire, pour que le service au battoir, donc ce fameux instrument que vous avez vu là sur les vidéos, et dont Jean-Guillaume a parlé, le service au battoir reste toujours d'actualité dans le tambourin. Et cette règle donc, qui est en train éventuellement d'être mise en place, c'est la réduction de 10 mètres. Donc le terrain, au lieu de faire à 80 mètres, ferait 70 mètres. L'une des problématiques du tambourin italien en particulier, c'est qu'en Italie, pas que dans le foot, mais dans toutes les disciplines, ils ont un petit peu cette culture de la défense. Et donc, bien entendu, ça donne des matchs en Italie qui sont très longs parce que les joueurs renvoient la balle en hauteur, très loin dans le camp adverse, etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font avec des balles paraboliques sans qu'aucune des équipes prenne un risque. Et donc, le fait de réduire le terrain amènerait les équipes à prendre plus de risques parce que le terrain étant réduit, les joueurs sont plus proches les uns des autres et par définition, il devrait y avoir plus de balles courtes et donc plus de balles attaquées, comme on dit dans le tambourin. C'est pas encore en place. Cette règle existe pour les féminines. Le terrain féminin est réduit de 10 mètres déjà. Mais c'est une règle qui permet justement à des personnes, de fait les féminines, avec un petit peu moins de force physique, de pouvoir jouer quasiment dans les mêmes conditions que les messieurs. Il y a eu une tentative de passer à 80 mètres chez les filles. Donc voilà, cette notion de 70 mètres, 80 mètres, elle n'est pas absolue. Il y a eu une tentative de passer à 80 mètres chez les filles, mais en les autorisant à servir de l'intérieur du terrain, finalement, on est revenu à la règle des 70 mètres chez les féminines. Voilà. Donc, oui, ça peut amener des modifications. Il y a d'autres règles qui sont testées en Italie, entre autres la règle des deux jeux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, et on l'a peu évoqué, mais un match en 13 jeux gagnants, les Italiens ont testé pendant une saison des matchs en 2 sets de 6 jeux. Donc on se retrouverait avec un système de tennis. Alors ça a des conséquences sur les changements de camp, les choses comme ça, etc. Ce qui fait que le temps que l'on... Parce que l'idée, c'était de gagner du temps. Parce que les parties en Italie vont jusqu'à durer 3 heures. En France, un match, c'est en gros 90 minutes. Et si c'est accroché, c'est 90 minutes de 2 heures, de heures de match. Mais guère plus que ça. En Italie, les matchs durent facilement 3 heures à 3 heures et demie pour des questions de jeu. Tant qu'on perd pas, voilà, tant qu'on perd pas, on a les chances de gagner. C'est un petit peu cette approche, je dirais, défensive de la philosophie italienne. Et donc, ils essaient un petit peu de modifier les choses. Voilà, nous, en France, on reste quand même assez circonspect là-dessus. On laisse les choses en place, on regarde si ça a du sens et pourquoi pas un jour l'adopter. Les règles qui ont évolué dans ces 20 dernières années, c'est entre autres, à une époque, un match se faisait en 21 jeux. Il a ensuite passé en 16 jeux avant de passer en 13 jeux. Voilà. L'idée, c'est de garder la partie dans une durée qui représente à peu près 1h30, 2 heures, ce qui est la durée d'un match de football ou d'un match de rugby, avec les temps morts, les mi-temps, etc. Donc voilà pour ta réponse, Philippe. Ne vous inquiétez pas, il y a des séances de découverte. Et donc, les séances de découverte, vous pouvez très bien contacter le comité départemental. Je vais vous donner l'adresse. Vous êtes connoté ou pas? Vous tapez Sport Tambourin 34 et vous avez donc le site du comité départemental de Tambourin et vous avez éventuellement l'adresse aussi. Par email, vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone et on peut organiser des séances de découverte à destination de vos associations, de vos entreprises aussi, on l'a eu fait. L'avantage qu'il y a, c'est comme c'est un sport qui est peu pratiqué, en entreprise, ça remet tout le monde à zéro. Voilà, c'est pas, vous ne retrouvez pas en entreprise avec quelqu'un qui sait jouer au football ou quelqu'un qui sait jouer au basket et qui va faire le malin devant les autres. En principe, alors vous risquez d'en avoir un qui sait jouer au tambourin, mais c'est plutôt rare. Et ça permet de créer, de remettre un petit peu les gens à zéro dans leur pratique sportive. Alors souvent, on part sur une matinée avec une durée de 1h30 à 2h. Et adapté, bien entendu, au public. Donc l'idée, c'est de pouvoir, une heure et demie, faire une rencontre qui va durer une demi-heure pour conclure à peu près cette présentation. Voilà. Et au début, bien sûr, vous l'avez vu sur l'illustration, il y a une série d'exercices pour tirer dans des cibles, apprendre à maîtriser le tambourin. Parce que si vous avez tenu un en main, alors on n'en a pas aujourd'hui ce soir, mais le tambourin est très efficace pour lancer la balle loin. Et les gens sont tout le temps surpris de cette vélocité de la balle. Voilà, ils disent, ah, mais oula, ça part vite. Oui, ça part vite. Ça part beaucoup plus vite qu'une balle de tennis avec une raquette de tennis. Le tambourin, avoir de la puissance, c'est pas vraiment un problème. C'est avoir de la maîtrise qui est un problème. Donc, une heure et demie, deux heures, c'est l'occasion d'apprendre à jouer, de se faire un plaisir et de faire une petite rencontre pour créer un petit peu, savoir qui est-ce qui payera l'apéro après. Voilà. Oui, Bruno.
Est-ce que la musique est une musique qui est associée au sport tambourin ou au jeu de balle tambourin?
Alors, malheureusement, le tambourin s'est longtemps éloigné de tout ce qui était pratique culturelle, etc. On le sait, la course camarguaise, il y a l'entrée, il y a une pégoulade, etc. Il y a toute une série de choses qui sont attachées à la course camarguaise.
Dans les joutes aussi.
Dans les joutes aussi, avec de la musique pendant les échanges, etc. Alors, le tambourin. Pendant les échanges, ce ne serait pas possible. C'est un peu comme le tennis, c'est un sport de concentration ou le baseball, donc il ne peut pas y avoir trop de bruit. Donc on le sait qu'il y a certains publics qui sont bruyants, mais en principe, voilà, il y a un certain respect. Mais il n'empêche que le tambourin, en voulant devenir un sport moderne, vous l'avez vu, il se pratique avec des tenues modernes, etc., ce qui est légitime, vu que c'est un sport où on court beaucoup, on se déplace, etc., a aussi perdu beaucoup de cette relation avec la culture, le patrimoine, la tradition. On réintroduit ça régulièrement, entre autres avant certains matchs, en particulier certaines finales, le sécant est entonné. Donc il y a un moment où on présente les joueurs et on joue le sécant. Mais c'est encore, c'est encore marginal parce que le tambourin a voulu s'éloigner un petit peu de. En voulant devenir moderne, il s'éloignait de la tradition. Et je pense que. Ben, c'est pour ça qu'on est là aussi ce soir, en présence de Jean-Guillaume Rouquette et du cercle Occitan, et bien sûr de Radio Languedoc. L'objectif est clairement que le tambourin retrouve ses racines, parce qu'on peut très bien faire les deux. On peut très bien être un sport moderne, rapide, dynamique, et être aussi conscient de son histoire et de son passé. Et de sa culture.
Ça se pratique la saison d'été. Est-ce que vous ne pourriez pas jumeler avec le fait de
Alors, voilà. Alors, ça se fait. Alors, Ça se fait assez récemment. L'un des éléments, c'est qu'on le sait, la course Camargas, par exemple, est typiquement un sport qui est associé à la fête de village. Ce n'était pas le cas du tambourin. Donc, pour diverses raisons que je ne connais pas, ce n'était pas le cas. Ceci dit, ça se fait de plus en plus régulièrement. Voilà, le village qui, alors le club qui se porte candidat pour recevoir telle ou telle manifestation de tambourin, met dans son dossier de candidature et ce sera pendant la fête votive du village. Donc voilà. Mais c'est pas une association qui a existé depuis longtemps. Voilà. Mais clairement, c'est une très bonne idée. Comme beaucoup de matchs que l'on fait maintenant sont associés à des marchés du terroir. Voilà, c'est le cas à Pignan, par exemple. Vous avez le marché du terroir le lundi et on vient faire des matchs, des rencontres de tambourin en parallèle du marché du terroir. Donc, mais c'est une très bonne idée. Voilà. Mais une idée qui restera moderne pour le tambourin. On a fait le tour. On va vous laisser là-dessus. N'hésitez pas donc à taper Sport Tambourin, c'est CD34 sur Internet. Vous allez trouver des informations régulièrement. À écouter, bien entendu, Philippe Carcassès sur Radio Linguadoc dans son émission Adjoc. À écouter Radio Linguadoc de toute manière. Parce que
Sans modération.
Voilà, tout à fait. Et en tout cas, nous, voilà, vu que personne ne veut faire la conclusion, je vais devoir la faire. Voilà. Mais en tout cas, on reste très attachés. Exactement. N'hésitez pas à vous rapprocher du cercle occitan pour apprendre l'occitan. Et les danses traditionnelles. Et bien entendu, on va aussi, le comité de tambourin et le tambourin général va aussi se rapprocher alors, du cercle occitan de Montpellier, bien entendu, mais d'autres cercles occitans, de façon à pouvoir justement recréer, retisser ces liens qui se sont un petit peu distendus entre la culture occitane et le sport tambourin. Et l'Office du tourisme de Montpellier nous a demandé d'être présent aussi sur d'autres dates, au niveau de la comédie, au niveau du kiosque, etc. Donc on voit, ça rejoint un petit peu la question de monsieur, l'intérêt renouvelé des acteurs publics, entre autres les acteurs du tourisme, pour cette pratique, de façon à proposer quelque chose de différent. Voilà. C'est pas proposer du ketchup avec des frites, ça tout le monde sait le faire n'importe où en France. Par contre, proposer des pratiques traditionnelles, ça reste plus significatif d'un terroir et de caractère d'une région. Et merci à tous les participants, donc à Philippe, monsieur Vivancos et monsieur Rouquette.
Avez escutat la segunda partida d'une conférence de Christophe Granier et Jean-Guillaume Rouquette à préparos d'un sport en bruit. Vous gagnerez le 24 d'abrial des 12 000 d'Azena à la Gazette Café à Montpellier.